RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le meilleur coach de France, toujours à mes côtés. Et oui, notre athlète préféré, Yoann Durand, le maître Yodu. Salut Yoann.
Salut à tous, salut Benoît, ça va impeccable?
Ça va, comme on peut, tu sais, hein, y a une petite alerte musculaire.
Comme un ancien, comme un vieux, ça y est. Et ouais, petite... Je lui mets des 500, monsieur se claque. Ouais, des 300.
Pas claquage, j'espère pas.
Non.
Oui, tout vous dire, il y a une petite, petit souci musculaire qui traîne, on espère que ce sera rien de grave. Voilà. Donc, voilà, on attend
proche
de voir
la quarantaine, hein, j'avais oublié.
Ouais, c'est ça. Pourtant, j'ai les cheveux blancs depuis un moment, mais ça y est, je commence à le payer physiquement, quoi, c'est ça. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Strava. Merci également à tous ceux, on le dit rarement, mais s'identifie à la communauté RMC Running via Foot Dimanche, notre gamme vestimentaire, ça marche très fort. On vous remercie tous et on a hâte de vous croiser avec des t-shirts et Run RMC, Maître Yodu, plaisir, fatigue, difficulté.
Ah, ça va être drôle.
Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer, tout ça. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, Foot Dimanche, allez voir ça. On fera gagner des cadeaux d'ailleurs dans les prochains épisodes avec des bons d'achat pour la gamme RMC Running. Une thématique qui s'adresse à vous, mesdames, aujourd'hui. Comment bien s'entraîner, le running au féminin, tous les conseils d'une entraîneuse pour débuter et progresser en course à pied, mais vraiment via l'aspect féminin. Et on accueille une spécialiste qui vient de sortir un bouquin qui y est dédié, c'est Suzy Carian, vous la connaissez forcément. Suzy One sur les réseaux sociaux, elle est avec moi dans ce studio. Salut Suzy.
Bonjour à tous, très contente d'être ici.
Eh bien, ravie que tu sois là et merci d'avoir fait le déplacement exprès rien que pour nous.
Exactement, je suis venue de Lyon juste pour toi et pour Yoann.
Eh bien, merci Suzy et on est très heureux de mettre en avant ton livre, donc Running au féminin. On va tout détailler, raconter pourquoi tu as sorti ce livre, à qui tu t'adresses et les conseils clés que tu peux donner comme ça à celles qui nous écoutent et qui ont envie de progresser en course à pied. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Suzy, merci beaucoup d'être là, en pleine préparation, toujours à 100 à l'heure, en train de courir. Tu me disais, tu prépares même la saison de piste. Hein. Toi aussi, tu vas retourner sur le tartan cet été. Quoi.
Exactement. Ce n'est pas forcément là où je suis née, mais c'est vraiment ce que je préfère.
Ah, c'est vrai? Tu préfères la piste à la route, alors?
Ah, c'est assez bizarre. Moi, je pense que je suis très bizarre parce que mes distances les préférées, c'est le marathon et le 1500.
Ah oui,
ah c'est oui, le d'accord. Grand écart.
Exactement.
C'est bon, ça. Ah ouais, c'est des efforts complètement différents.
Totalement. Et je pense que je pourrais faire que ça.
À faire, sans passer par les étapes intermédiaires, 10K, 5K.
Mais ça va avec ma personnalité, tu sais, c'est un peu excessif, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est important. Après, nous, on le dit régulièrement, de développer ces bases de vitesse qui peuvent te servir par la suite. Pour ta saison personnelle, d'ailleurs, pour refermer cette parenthèse, de la piste cet été et le marathon de Valence en fin d'année, quoi.
C'est exactement. Ça, bah, oui, en fait, dans l'idée, c'est certainement de travailler de la vitesse pour aller chercher à bouger un peu les lignes sur marathon, parce qu'à un moment donné, hein, on arrive à chercher quelques secondes au kilo. Donc, du coup, pour aller les chercher, ces secondes, il va falloir sortir un peu de sa zone de confort.
Exactement. Suzy, c'est un coach reconnu aujourd'hui, Yodu, dans le monde, le milieu de la course à pied. Coach FFA, donc coach certifié. On t'a vu en collaboration avec le Marathon de Paris, notamment. Pourquoi tu as eu envie de sortir ce livre? Et surtout, pourquoi tu as voulu t'adresser aux femmes spécifiquement, Suzy, alors?
Je pense que j'ai eu envie d'écrire un bouquin sur le running au féminin. C'est arrivé pendant ma deuxième grossesse.
Ouais.
Parce que moi-même.
T'as deux enfants, je pense.
Oui, exactement. Ouais. J'ai deux enfants. Et mon deuxième enfant, à ce moment-là, pendant ma grossesse, j'étais déjà sportive et entraîneur.
Ouais.
Et je manquais d'informations sur comment m'entraîner pendant la grossesse. Et c'est là où est née l'idée que bah, finalement, si ça manquait pour moi, c'est que ça devait manquer pour les autres. Et petit à petit, j'ai commencé à faire ma petite bulle où j'ai commencé à venir compléter toutes mes connaissances, me former pour me dire en fait qu'un jour, j'avais envie de parler aux femmes et de leur dire que là où pendant des années, on nous a amené à penser que nos spécificités étaient parfois reconnues comme des tares, des choses un peu négatives, moi, je pense que c'est ce qui fait de nous notre force, en fait.
C'est ça, l'idée de base, c'est de bien expliquer, casser cette idée reçue, de se dire, quand on est une femme, il y a des contraintes et des points faibles, alors que pas du tout, et finalement, on peut en faire... une force. Nous, on reçoit régulièrement des athlètes qui sont des vrais exemples, hein, que ce soit en course sur route ou en trail. Là aussi, on le vérifie avec les niveaux stratosphériques atteints aujourd'hui. C'est pas du tout une contrainte lorsqu'on pratique la course à pied d'être une femme aujourd'hui.
Pas du tout. Alors pour moi, il faut pas du tout considérer la maternité déjà comme étant la fin d'une carrière, ou même d'une pratique sportive. Hein, et pas du tout considérer également le fait d'avancer dans l'âge comme étant la fin d'une envie de continuer de progresser ou en tout cas de se challenger.
En tant que coach FFA, donc tu as un groupe d'athlètes dont tu t'occupes, tu as combien de femmes d'ailleurs dans ton groupe ?
Alors, dans mon groupe actuel, on est un petit groupe, hein, c'est un choix personnel, et dans mon groupe, on est majoritairement des femmes. Okay. Mais, je tiens à préciser, parce que c'est quand même très important, on n'est pas loin de la parité dans le groupe, parce qu'il y a quand même des hommes présents, et je le précise parce que quand j'ai commencé en tant qu'entraîneur, bah, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus facile.
Ouais.
Généralement, on va naturellement vers un homme parce qu'il y a déjà peu de femmes, faut être honnête, et parce que on peut aussi avoir certaines difficultés quand on est entraîneur femme pour aller entraîner des hommes.
Johan, c'est le bon positionnement, hein. C'est ce que je disais à Suzy avant de démarrer le podcast, mais c'est une très bonne idée d'adresser ce livre à toutes celles qui nous écoutent parce que oui, il y a des spécificités dont il faut tenir compte. Mais ce n'est pas du tout un frein à la performance. Et loin de là, nous, on le voit avec toutes les athlètes qu'on reçoit tout au long de l'année dans RMC Running.
Bah, totalement, ouais. Il y a... Tu sais, la fameuse question « Pourquoi tu cours ?» Que tu sois un homme ou une femme, souvent, la réponse, elles ont aussi besoin de cette décompression mentale, du fait que la course à pied, bah, ça les aide à se sentir bien et puis à chercher aussi à se challenger et à progresser. Moi, je le vois sur My Running Club, le nombre de femmes ces derniers mois là, qui viennent pour faire des performances sur marathon avec des chronos, des objectifs de temps et de vraiment essayer d'aller le plus loin possible, bah c'est très 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 régulier et voilà, c'est tout à fait logique qu'elles aussi elles aient envie de progresser, de chercher à se challenger via la course à pied, quoi.
La difficulté aussi de lorsqu'on écrit un livre sur la course à pied, c'est trouver le juste milieu et le bon positionnement entre la théorie et la pratique. Et toi, tu as réussi à rendre ton livre hyper ludique, Suzy, finalement, parce que tu t'adresses à toutes les femmes. Et d'ailleurs, à la fin du livre, vous pourrez le constater si vous allez l'acheter dans les meilleurs revendeurs ou librairies, c'est qu'en fait, tu pars de la femme qui débute la course à pied jusqu'à celle qui veut établir un plan marathon. Donc vraiment, tout le spectre des femmes peut s'y retrouver dans ton livre. En fait.
Oui, parce que ça va aussi avec, je pense, mon état d'esprit et puis au final, un peu avec mon parcours de vie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à courir, j'ai juste commencé à courir. Parce que
t'as commencé à quel âge, toi, d'ailleurs ?
J'ai commencé autour de 30 ans.
Ok. T'étais sportive avant ?
Pas du tout.
Ah ouais ?
Non, pas du
tout.
Ah,
donc c'est vraiment ton sport de prédilection depuis que tu pratiques, quoi.
Exactement. Ouais. Tu as totalement raison, Johan. Je suis tombée dedans.
Tombée dedans.
Je suis complètement tombée amoureuse de la discipline. Et effectivement, je n'étais pas sportive. Et je me dis que parfois, on peut commencer à pratiquer la course à pied pour des raisons. Ce n'est pas forcément les raisons pour lesquelles on va continuer de pratiquer par la suite. Et ça ne nous empêche pas qu'à un moment donné, on ait envie de se challenger. Et donc, c'est aussi pour ça que le livre, il a aussi cette identité. Là, c'est-à-dire qu'à un moment, on va venir commencer et puis peut-être qu'on voudra par la suite venir se challenger sur d'autres distances.
Ouais, c'est bien raconté aussi les différentes étapes. Je cours pour démarrer, me remettre en forme. Au final, je me fixe des objectifs, puis je veux atteindre mes limites. Il y a toute cette graduation qui est bien expliquée dans le livre, d'ailleurs. Et tu t'adresses à tout le monde là-dedans.
Oui, effectivement. En fait, pour les plans, je pense que... c'est vraiment que qu'on soit une femme ou un homme, ça va parler
bien
à tout le monde.
Évidemment.
Là où le livre va avoir ses spécificités, effectivement, là, on va être sur quelque chose de plus féminin. Mais concernant les plans, qu'on soit une femme ou un homme, au final, on rencontre les mêmes choses, hein, les mêmes envies de se challenger, de débuter, etc.
C'est vrai que cette nouvelle génération de sportives et de runneuses, on le voit, et un peu moins, je trouve. Enfin, après, on a des exemples, nous, avec les athlètes de haut niveau, mais un peu plus décomplexées vis-à-vis de la grossesse, notamment. Nous, on a deux amis à RMC Running qui ont eu des enfants récemment et qui ressortent des perfs de très haut niveau. Bah, les deux qui ont terminé première au marathon, au championnat de France de marathon. Anaïs Kemener, qu'on embrasse, Alice Michel, qui fait partie de la team RMC Running, sont des jeunes mamans et elles reviennent très vite à un niveau très haut. C'est bien aussi de casser, on le disait, cette idée reçue de dire... quand on fait une pause maternité, on aura du mal à retrouver son niveau, ce qui est totalement faux. Et on le voit avec Alice et Anaïs, par exemple.
Exactement.
Quel que soit son niveau, d'ailleurs, Suzy.
Exactement. En fait, ce n'est pas une question de niveau, c'est surtout une question d'envie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'une femme qui a envie de reprendre après la grossesse, si l'équipe médicale est OK et que le corps suit, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas. Et à la fois, une femme qui n'a pas envie, elle a le droit de ne pas avoir envie, elle a envie de prendre le temps, elle a d'autres priorités et c'est aussi OK. Mais je pense qu'effectivement, je te rejoins complètement, la nouvelle génération montre aussi les possibles. C'est-à-dire qu'on peut totalement avoir eu un enfant et puis finalement venir très rapidement se challenger sur de longues distances ou même sur des distances plus courtes. C'est totalement envisageable dès lors que l'équipe médicale est OK et que le corps est OK aussi.
Johan, toi, tu es le cofondateur de My Running Club, c'est du coaching individualisé. Mmh. Est-ce que vous coachiez les femmes comme les hommes ou est-ce qu'il y a des différences?
Bah, nous,
je préfère
déjà,
avoir ta sensibilité à toi avant d'avoir celle de Suzy, d'ailleurs.
On a, sur 14 coachs, on a 6 coachs femmes. Donc, on ne respecte pas tout à fait la parité, mais on est quand même, ouais. On n'est pas loin. On a 6 coachs féminines et grosso modo, je pense que ça doit représenter... on doit être entre 30, un peu plus de 30%, tu vois, moins de 40%, je pense, d'athlètes féminines dans notre structure. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un vrai engouement, surtout chez la jeune génération, vraiment de jeunes filles de moins de 30 ans, tu vois, qui se lancent dans la course à pied, ouais. Parce que bah, le running est devenu un peu, si on parle du running il y a 10 ans, c'était un peu le papy qui courait à 50 ans avec son t-shirt en coton et ses baskets, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, l'image du running, elle a changé, avec tout, que ce soit sur Instagram, TikTok ou ce que tu veux, tu sens qu'il y a une appartenance communautaire, il y a tout le monde qui a compris que le running était à la mode. L'industrie, elle s'est vraiment adaptée et que ça soit, tu vois, moi je sais, avec ASICS. Ouais. Aujourd'hui, quand je regarde le textile féminin d'aujourd'hui et d'il y a 10 ans, ça n'a rien à voir en termes de look, de tout ce qu'il y a, tu vois, ça a vraiment amplifié le phénomène. Et donc, du coup, effectivement, il y a toute cette nouvelle génération qui arrive. Et nous, pour l'instant, on n'est pas encore à la parité. Mais je pense qu'on représente un peu la moyenne que peut avoir, je crois, le marathon de Paris. Il me semble avoir vu que c'était 30% de... 30 ou 40% de femmes, non?
Ouais. On est au moins aussi haut sur des marathons de masse, hein, plus de 60 000 partants. Donc, ouais, c'est vrai que ouais. C'est impressionnant.
Et donc, moi, dans ma structure, c'est à peu près le même phénomène que ce qu'on peut rencontrer de façon générale. Ouais.
Question bête, mais est-ce que vous mettez forcément une cliente féminine avec un coach féminin?
Non, moi, pas forcément. C'est vraiment le projet de l'athlète qui prime par rapport au choix qu'il va y avoir avec le coach, si c'est plutôt trail, plutôt route, plutôt objectif performance et tout ça. Et après, effectivement, s'il y a une demande juste de remise en... Ça peut être, des fois, on a des athlètes qui viennent, qui ne veulent pas forcément épingler de dossard, qui sont dans une logique pour l'instant de juste se sentir bien dans leur corps, un rituel personnel de la course à pied et qui demandent à être des fois coachés par des femmes qui se sentent plus à l'aise avec ça. Et là-dessus, il n'y a pas du tout de problème et non c'est vraiment le profil de l'athlète qui nous fait dispatcher avec quel entraîneur et c'est pas 100% des femmes sont coachées par des femmes, c'est pas le cas chez nous en tout cas.
Suzy, est-ce que tu coaches un homme et une femme de la même façon?
Alors je coach de la même façon dans le sens où mon attitude va pas forcément être la même. Je pense que ce qui va être différent c'est en fonction des demandes qui seront faites en face de moi.
C'est le cas particulier.
Oui.
Tu t'adaptes à la vie de la personne en face de toi, que ce soit un homme ou une femme.
C'est ça.
Exactement. Et en fait, pour rejoindre ce qu'il était en train de dire, Johan, je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on veut forcément être entraîné par une femme. Pas du tout. Je pense que dans la notion de coaching, il y a quand même la notion de rencontre. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il faut se sentir suffisamment à l'aise pour être entraîné. Parce qu'il y a quand même une dimension très intime dans l'entraînement.
Bien sûr.
On évoque des choses très personnelles. Et je pense qu'il faut se sentir à l'aise. Donc,
c'est une relation de confiance.
Exactement. Donc, pour moi, c'est hyper important. Ma façon d'être avec un homme ou une femme, elle n'est pas différente. Je pense que effectivement, les femmes, peut-être, vont évoquer certains sujets avec moi. Peut-être qu'elles le font plus, j'en sais rien. Je pense que je ne peux pas vraiment répondre. Mais moi, je ne suis pas différente.
Ouais, c'est la même façon de coacher pour un homme ou pour une femme. Mmh. Est-ce que malgré tout, dans votre expérience à tous les deux, surtout soit Suzy qui est un coach FFA et qui donc a l'habitude de faire des suivis longs de préparation de différents athlètes, tu sens des différences dans les façons pas de contester un entraînement, mais d'appliquer effectivement une séance? Ou est-ce que... Non, c'est vraiment du cas par cas, là. Ça n'a rien à voir entre un homme ou une femme. C'est vraiment le caractère de chacun, quelque chose.
Ouais. Moi, j'ai jamais eu de différence. Là, d'ailleurs, dans mon groupe, il n'y a aucune différence sur l'attitude en entraînement. Je ne vais jamais dire, ah bah tiens... Ils ont une réaction qui est propre à leur personnalité et pas à leur genre. Ça, c'est hyper important. Ouais. Parce qu'au final, c'est un peu ça dans notre vie. Hein. Ouais. On est tous différents en fonction de ce que l'on est et pas de, notre identité de genre.
Exactement. Tu l'as ressenti, ce que Johan disait auparavant, ce côté, la gamme vestimentaire qui s'adapte aussi aux nouvelles générations, aux nouvelles modes, toute cette folie running qui nous embarque tous et qui est de plus en plus adaptée justement aux jeunes femmes qui s'y mettent ?
Alors, je pense qu'effectivement, je le rejoins complètement. J'ai vu la même chose parce que, mine de rien, maintenant, ça commence à faire un petit moment et j'ai vu les choses évoluer, tant en termes de produits qu'en termes d'attitude, d'âge aussi et de pratiques sportives sur le marathon ou sur d'autres distances. Et effectivement, je pense que le marché de l'industrie est aussi très bien compris. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un marché qui est là, présent. Ils sont allés dessus. Je n'ai pas vraiment d'avis. Je pense que, en fait, pour moi, dès lors que ça vient... ça donne envie aux gens de se mettre au mouvement, ben en fait, ça peut être que positif. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des vêtements grave cool et aussi grave cher pour pouvoir courir. Hein. Ouais. On peut aussi courir sans tout ça, si ça fait plaisir et c'est que ça motive, pourquoi pas.
Parce que Lyon, c'est comme ailleurs. Il faut surtout avoir un bon caouet l'hiver. Quoi.
Je tiens à préciser que j'ai ramené le soleil aujourd'hui à Paris.
C'est vrai, il y a le soleil. Voilà. Mais merci à toi parce qu'il n'était pas présent hier et il ne sera certainement pas présent demain. Donc, merci d'être venu. En tout cas, Suzy, ça nous aide comme ça à avoir quelques petites éclaircies. Il y a tous les aspects de l'entraînement qui sont développés dans ton livre. Je l'ai dit, c'est assez ludique. Il y a un peu une partie de nutrition, il y a une grosse partie renforcement musculaire aussi, parce que c'est la base de tes entraînements aussi. Et est-ce que ton renforcement musculaire dans ton livre est adapté aux femmes, justement ?
Alors, effectivement, le renforcement musculaire, il est très présent dans le livre pour la simple et bonne raison que ça a été quand même mon entrée dans ma pratique sportive. D'accord. Je n'ai pas commencé par la course, j'ai commencé toute seule chez moi avec des séances de renfo. Ouais. Et en fait, ça est resté. Mmh. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui m'identifie beaucoup. Parce que c'est ce que j'aime aussi.
Et tu sais l'importance de la PPG dans la performance sportive et dans le fait de prévenir les blessures, par exemple.
En fait, pour moi, le renforcement musculaire, ça va être là pour compléter les entraînements de running, mais surtout pour dans une optique de durer aussi longtemps que possible dans sa pratique sportive. Et effectivement, comme tu le soulignes, en fait, prévenir tout risque de blessure. Et donc dans les séances qui sont proposées, il y a deux types de séances. Il y a la séance basée sur la pratique du Pilates, parce que je suis formée à la méthode Pilates, et il y a la séance classique de renforcement musculaire. Les deux sont adaptés aux femmes, mais attention, en fait, c'est pas uniquement pour les femmes.
Non, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est pour les femmes comme pour les hommes. Mmh. La réponse, elle est identique. Après, je pense que naturellement, dans ce que je peux voir moi dans les pratiques de Pilates, on a généralement plus de femmes que d'hommes, alors qu'en vrai, la pratique du Pilates, elle est hyper intéressante
pour tout le monde,
quel que soit le profil. Mmh. Hein. Ouais. C'est vraiment une méthode de renforcement musculaire qui a une approche très différente, mais qui complète totalement la pratique de la course à pied.
Ça paraît évident de le dire, mais il n'y a pas un conseil dans ton livre qu'un homme ne pourrait pas appliquer.
Exactement.
Parce que ça, c'est... Bon, après, il y a peut-être un sujet ménopause qui arrive, voilà. Dont on là, parlera, où là, c'est un peu différent chez les hommes et chez les femmes, mais tout ce qui est conseil d'entraînement, même les plans, moi, je vois les plans semi ou marathon, c'est un plan qui est totalement applicable à un homme qui veut aller chercher un chrono ou une performance, de toute façon.
Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de différence là-dessus.
Exactement. Justement, allons-y sur les spécificités. Quand tu t'es dit « je vais m'adresser aux femmes », comment tu l'as construit dans ta tête, le livre ? Tu as forcément voulu qu'il y ait beaucoup d'exemples, qu'il y ait tous les aspects de l'entraînement qui soient présents, l'entraînement, le renfort musculaire, l'alimentation, l'hydratation. Comment tu l'as construit dans ta tête, ce livre ?
Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé à construire le livre, je me suis surtout dit, la première chose moi, qui apparaissait, c'était la grossesse. Puisque c'est né pendant ma deuxième grossesse. Et en fait, je me disais, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment je peux m'entraîner, je ne sais pas jusqu'où je peux m'entraîner. C'est de là, c'est la première partie en fait, qui a vraiment été écrite par rapport au livre.
Quelle question est-ce qu'on se pose quand on est enceinte, d'ailleurs, et qu'on adore la course à pied ?
Je ne vais peut-être pas représenter la majorité des femmes. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que la première question que je me posais, c'est qu'est-ce que je peux faire sans impacter ma grossesse ?
Ouais,
c'était ma peur, forcément. J'étais enceinte, j'avais peur de faire quelque chose qui puisse générer un trouble dans la grossesse ou bien générer un impact chez mon enfant. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'a priori autour de ça et que dès lors que moi, je suis bien et que je reste aussi dans une pratique de loisir, puisque c'est comme ça que je l'ai conçu, en fait, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Donc ça a été la première partie.
Ouais.
Et la deuxième partie, ça a été le postpartum. Donc, comment s'entraîner quand on a eu un enfant, comment revenir dans l'entraînement. Et après, en fait, finalement, petit à petit, ça s'est en fait... je suis venue tricoter autour de ça en me disant, il y a le postpartum. Et finalement, aujourd'hui, tu vois... Je suis en train de parler de ma vie, mais j'ai 41 ans. Je me dis, ah ouais, et du coup, comment je vais m'entraîner quand j'en aurai 50? Et donc, du coup, je suis venue me poser des questions là-dessus. Et en fait, j'ai commencé à broder l'idée du livre. Et c'est de là, en fait, que j'ai construit le livre.
Ouais, parce que le postpartum, nous, on a déjà consacré des épisodes avec la précaution qu'il faut prendre, le renforcement musculaire qui est important à cette période-là, la façon de se remettre en route progressivement et de ne pas garder en tête l'aspect psychologique des allures qu'on pouvait atteindre lorsqu'on n'était pas enceinte ou alors en début de grossesse. Toute cette partie psychologique, est-ce que tu l'abordes dans le livre aussi? Est-ce que tu essayes aussi, entre guillemets, de déculpabiliser les femmes reneuses qui pourraient lire ton livre à cette période de leur vie?
Alors là, oui, clairement, parce que je pense que c'est déjà le discours que je tiens naturellement, en fait. Je pense qu'on a déjà suffisamment à porter en tant que personne, en tant que femme, et je pense qu'il faut arrêter en fait de se mettre de la pression supplémentaire en lien avec la pratique sportive. Je pense qu'en soi, la performance, il faut la redéfinir. C'est-à-dire qu'à un moment donné de sa vie, la performance peut être une performance chronométrique, à savoir se challenger, on parlait de marathon, etc. Puis parfois, la performance, c'est juste d'y aller, en fait. Parce qu'on revient d'une phase de sa vie, soit dans le cadre du postpartum, soit c'est juste réussir à se libérer du temps. Parce que quand tu as des enfants, ou pas forcément, tu peux avoir une vie chargée, c'est compliqué parfois de se libérer du temps. Donc, je pense que naturellement, mon livre, il va avoir ce discours, parce que c'est, je pense, ce que je suis. Et c'est dans ma pratique à moi aussi ce que je pratique, en fait, au final.
C'est important cet aspect déculpabilisation, Johan. Nous aussi, on en parle quand on fait des suivis encadrés de préparation pour le marathon de Paris ou pour d'autres courses. C'est toujours le conseil qu'on donne à ceux qu'on accompagne. C'est vous avez tous des vies différentes. Certains bossent la nuit, certains ont des enfants, certains ont des grosses charges de travail ou des gros facteurs de stress. L'idée de départ, c'est de se faire plaisir et de conserver tout cela comme une passion, déjà.
Ouais, exactement, et c'est un peu aussi le conseil qu'on peut donner après une blessure, c'est de prendre le temps de reconstruire les choses et de se dire, j'ai peut-être pas un objectif de performance sur les 3, 4, 5 prochains mois, ça va être de courir tous les jours parce que j'ai été arrêté à cause d'une blessure pendant 6 mois et je me reconstruis petit à petit et puis après je remettrai un dossard et après avoir remis un dossard, je remettrai des objectifs et c'est comme ça qu'on doit avancer plutôt que effectivement griller les étapes et alors par rapport à la blessure, ça serait se reblesser derrière, mais par rapport à d'autres problématiques, ça serait de se dégoûter de la course à pied. Et c'est pas le but. Le but, c'est de savoir pourquoi on court et qu'est-ce qui nous fait plaisir et qu'est-ce qu'on recherche dans la pratique. Et effectivement, le fait d'y aller comme ça de façon régulière et d'avoir une petite carotte pour se lever tous les jours pour y aller, c'est ce qui nous permet ce qui nous fait avancer, quoi.
Facteur plaisir est essentiel, sûr.
Je pense que, honnêtement, je ne côtoie pas d'athlètes de haut niveau, mais je pense qu'ils ont tous du plaisir. Enfin, la notion de plaisir, elle est valable chez tout le monde, quelle que soit sa phase de sa vie.
Quand elle disparaît chez eux, c'est que c'est mauvais signe et que ça va mal tourner souvent. On fait souvent des retours d'expérience auprès d'athlètes qu'il a croisés. Lui, il a fait 20 ans de haut niveau, mais il en a vu quelques-uns craquer parce que le plaisir n'était plus au rendez-vous.
Pour moi, le plaisir, ça doit être quand même la base. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier la raison pour laquelle on décide de chausser des baskets.
Exactement.
Et effectivement, il y a des gens qui ont un vrai pied ou un talent ou du potentiel et qui vont développer certains chronos, certaines carrières. Puis en fait, peu importe, ce qui compte, c'est ce pourquoi tu te lèves, ce pourquoi tu décides de courir, ce pourquoi tu t'inscris pour telle compétition.
Ça, c'est intéressant d'en parler avec toi. Donc, ça fait plus de 10 ans de pratique de course à pied. Tu as eu 2 enfants, tu as une vie chargée aussi d'entraîneur. Donc, ça fait partie intégrante de ta vie, la course à pied. Est-ce que tu cours pour les mêmes raisons qu'au début?
Pas
aujourd'hui?
Du tout. Ouais. Non, clairement.
Alors, ça a évolué,
franchement,
quoi.
Autant vous dire que c'est pas du tout les mêmes raisons. Ouais. Alors, dans ce parcours de vie, il y a eu des moments où je courais pas. Enfin, j'avais des raisons qui ont évolué, en fait. Et puis, je pense que finalement, la course à pied, c'est comme dans la vie. Il y a des moments, en fait, avec, puis il y a des moments sans. Je pense que la course à pied, c'est surtout une ligne de conduite et une pratique qui évolue, qui s'adapte en fonction de là où on se situe dans sa vie. Mmh. Puis il y a des périodes où, effectivement, on va être à fond. Puis il y a des périodes où on va avoir moins d'objectifs, pas d'objectifs de dossard. Vu comme on galère, c'est pas plus mal. Mais pas d'objectif de dossard, mais ça n'empêche pas d'avoir le plaisir de courir.
Ça peut malgré tout rester une ligne directrice et cette envie qu'on a, qui est plus ou moins forte en fonction des périodes de la vie et qui peut évoluer au fil du temps. Voilà, on peut perdre un peu l'envie et la passion et le temps et puis le retrouver un peu après.
Et puis pour moi, il faut surtout dissocier deux choses. C'est-à-dire que là, on parle d'envie, mais il y a un élément qui est hyper important parce que j'en parle pour le coup, parce que je le vis, c'est pas parce qu'on parle d'envie qu'on parle de motivation. C'est deux choses différentes.
Hein.
On peut avoir envie et puis on peut ne pas être motivé. On peut avoir une phase de où on n'est pas tout le temps motivé. Moi, il y a des jours, honnêtement, il y a deux jours à Lyon, il pleuvait de fou. J'étais pas motivée. Hein. J'y suis allée parce que la discipline, parce que l'objectif, c'est ça qui me donnait envie. Mais en soi, j'avais aucune envie d'aller me foutre dehors sous la pluie.
Même si tous les trois, on est des vrais passionnés et qu'on sait très bien que même quand on n'a pas envie, au moment où on rentre, on est content de l'avoir fait.
En fait,
même quand il y a eu de la pluie. Oui,
on ne regrette jamais.
Regrette jamais d'y être allé, quelle que soit l'heure, le matin tôt, le soir tard, il pleut, il y a du vent, il neige.
Ça, c'est sûr.
Pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que généralement, d'ailleurs, dans ces moments-là, quand on y va parce qu'on sait qu'on va être bien après. C'est la motivation, d'ailleurs. c'est se dire, après, je sais que je serai bien.
Ah, sinon, après, tu culpabilises là, dans ton canapé.
Exactement.
Et quand tu te regardes dans la glace le soir, tu te dis quand même, t'es un gros sac.
Peut-être qu'il y a du vécu dans ce que tu partages.
Complètement.
Alors, connaissant vos physiques à tous les deux, le gros sac de la bande serait plutôt moi, a priori. Johan, on peut adresser la question à toi et à ton cas personnel. Est-ce que l'envie est toujours la même? Est-ce que les raisons de courir sont toujours les mêmes? Tu es dans une période un peu particulière, en plus, Yodu, parce que j'ai dit 20 ans de haut niveau. Tu prépares tes grands objectifs avec des records de France en ligne de mire sur différentes distances. Est-ce que l'envie, la motivation et les raisons pour lesquelles tu cours sont toujours les mêmes aujourd'hui?
La raison principale, le plaisir, lui, c'est toujours le même. Après, par contre, j'ai quand même beaucoup moins de pression et de stress de résultats qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, l'objectif, c'était de faire des grands championnats, de participer à des grandes courses, de faire des gros chronos et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, donc la pression est pas du tout la même. Et donc, je sais que si dimanche je fais pas une performance, c'est pas grave, ma vie elle va pas s'arrêter et ma carrière elle est déjà faite, quoi. Donc c'est pas la performance de
dimanche,
chaque dimanche.
Les France de 10 km.
Hein, ouais, c'est les France de 10, mais ça aurait pu être la course de dimanche dernier ou autre. Tu vois, c'est pas mes performances qui vont me rendre plus ou moins heureux, c'est vraiment le fait d'y aller et de trouver encore quelque chose qui me donne de l'appétit et qui me donne envie de me dépasser. Et c'est surtout dans le dépassement que je prends plaisir. Et par contre, dans une option, dans une logique comme ça de carrière, effectivement, j'essaye de trouver des objectifs qui me donne envie et vers quelque chose que j'ai envie d'aller, tu vois. C'est pour ça qu'on en parle depuis plusieurs temps maintenant, mais tu vois, le trail me fait envie parce que c'est un truc tout nouveau avec 100% de découverte que je connais pas du tout, un effort totalement différent. Continuer à essayer de battre mes records, enfin pas battre mes records, mais battre les records de France des plus de 40 ans, c'est quelque chose qui me challenge aussi. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui me font avancer, mais je me mets pas la pression comme j'ai pu l'avoir pendant ma carrière, parce que maintenant c'est terminé. C'est pas pour moi, je considère pas ça comme du haut niveau, quoi. C'est juste pour me faire plaisir.
Est-ce que le plaisir d'entraîner et de transmettre est différent de celui de s'entraîner soi-même, Suzy?
Ah oui, il n'a rien à voir. Enfin, pour moi, le plaisir d'entraîner est totalement différent par rapport au plaisir que j'ai dans ma pratique. Je pense que le plaisir d'entraîner, il va aussi avec la notion de transmission et le fait de se dire, en fait, c'est beau. C'est beau ce que font les gens, en fait. Moi, tu vois, par exemple, une de mes passions, c'est de me mettre sur une piste et de regarder les gens courir.
Ouais.
Je trouve ça passionnant parce qu'il y a autant de gens que de foulées différentes.
Exactement.
Et je trouve ça fascinant, en fait, de voir à quel point c'est naturel, en fait, de courir.
Non, puis de permettre à quelqu'un d'aller vers un accomplissement. Quand tu accompagnes sur une longue période un athlète et que tu le vois battre ses records, le jour où il te l'annonce, ça doit te procurer une émotion particulière.
Alors, en parlant de ça, je trouve en tant qu'entraîneur qu'il y a un stress qui est bien plus important que.
Parce que tu ne contrôles pas finalement le jour J.
Et puis en plus, tu dois être dans la gestion de ton émotion, parce que tu ne vas pas partager ton stress à ton coureur. Mais dans l'idée, moi, je trouve qu'effectivement, les émotions sont très différentes, parce que c'est beau de voir quelqu'un s'accomplir, s'épanouir et se révéler.
Johan, tu ressens les mêmes choses aussi?
Ouais, complètement, ouais. C'est du stress totalement différent. Effectivement, je pense que tu stresses plus pour tes athlètes ou pour les gens de ton entourage. Mais par contre, tu prends énormément de plaisir à le voir évoluer, à lui avoir fourni un cadre et avoir des discussions de départ et d'objectifs. Et au fur et à mesure, tu sens que le truc va peut-être se réaliser. Et quand la personne réalise sa performance ou pas, justement, c'est là où c'est quand même assez grisant. Et moi, je me reconnais dans son... Mais c'est pour ça que tous les coachs coach aime entraîner, c'est-à-dire qu'un coach, si t'es pas passionné de l'autre et que t'as envie de l'aider et de le pousser un peu, tu fais pas coach, quoi.
Ça, c'est sûr. Dans ton livre, Suzy, Running au féminin, il y a quand même tout le cœur de l'ouvrage qui est consacré donc aux femmes. Avec des spécificités féminines, il faut qu'on les aborde. On a abordé la grossesse, le pendant la grossesse et le postpartum. Abordons également le cycle menstruel et cette gestion de cette période particulière qui revient forcément tous les mois. Les principaux conseils que tu peux prodiguer à une femme qui nous écoute et qui est directement concernée par ces périodes tous les mois.
En fait, pour moi, le principal conseil, je dirais qu'il faut accepter que son corps évolue tout au long du mois.
Ouais.
Et ça paraît simple à dire, mais chaque femme a un fonctionnement qui lui est propre. Ouais. Et le meilleur moyen de savoir comment ça impacte, c'est de se connaître. Donc, de prendre le temps de savoir comment le corps évolue d'un mois à un autre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on part du principe que, en tout cas, moi, de ma génération, je suis un peu vieille, mais bon, dans l'idée, j'ai grandi dans une génération ou une société où c'était quand même assez négatif. Tu vois, la notion des règles, il y avait quand même un tabou autour de ça. Et toute phrase associée au fait d'avoir ses règles, ce n'était pas forcément quelque chose de très positif. Donc, on a grandi dans une société où avoir ses règles, c'était limite mal, c'était pas bien, il fallait se cacher, etc. Alors qu'en fait, c'est juste normal d'avoir ses règles.
Un phénomène naturel.
Exactement, c'est un phénomène naturel. Ça fait partie du fonctionnement du corps humain et du corps de la femme. Et donc, en fait, aujourd'hui, moi, je vais partir du principe de me dire arrêtons de croire et arrêtons de diaboliser les spécificités, le cycle féminin, et de se dire en fait, on va pas avoir de bonnes sensations, on va pas être en forme. On n'en sait rien. Si on se connaît pas, on sait pas si finalement il y a un véritable impact sur sa performance. Il y a des femmes pour qui, effectivement, on peut avoir des règles douloureuses, on peut avoir un cycle qu'on ressent bien. Puis il y a des femmes pour qui elles ne verront pas la différence, en fait. Mmh. Et ça, le seul moyen de savoir, c'est de s'écouter.
Ouais.
Donc, ça va avec l'idée de se dire, de se remettre au centre de sa pratique et d'être en capacité de s'entendre pour pouvoir adapter. Dans tous les cas, de manière globale, on va dire que dans un cycle, on va avoir des phases où on peut avoir des séances avec des pics d'intensité parce qu'on a un peu plus d'énergie, puis des phases où on va avoir un peu moins d'énergie, on va se sentir fatigué, on va se sentir ballonné, etc. Pourquoi j'en parle ? Parce que moi, ce que je constate surtout, c'est que généralement, les femmes, quand elles ne prennent pas en considération ça, elles vont avoir une image d'elles-mêmes qui est négative. C'est-à-dire que si on ne prend pas en considération la phase de son cycle, on va facilement se dire « Ah, mais tu vois, je ne suis pas motivée, en fait. Tu vois, en ce moment, je n'y arrive pas, je me sens gonflée. » Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être que tu es dans la phase de ton cycle qui t'amène à penser comme ça. Et du coup, ça vient biaiser le regard que tu portes sur toi-même.
Ouais.
Donc, quand on arrive à essayer de voir un peu plus comment le cycle fonctionne et comment ça impacte sa pratique, on a un peu plus de... On va apporter un peu plus de rondeur dans sa façon de voir les choses et être un peu moins rigide dans sa pratique sportive.
C'est intéressant pour celles qui débutent ou celles qui sont dans les premières semaines, les premiers mois de leur pratique de la course à pied, de noter tout simplement.
Oui.
C'est très concret, mais noter sur un cahier, sur l'iPhone, enfin plutôt sur le smartphone ou sur ce qu'on veut, la façon dont on digère ce cycle menstruel et les réactions du corps pour pouvoir ensuite peut-être adapter son entraînement. Comme tu le dis, on est tous uniques, enfin vous êtes toutes uniques, et de la façon dont ça impacte votre corps et vos sensations à l'entraînement.
Exactement. En fait, pour moi, le seul moyen de le savoir, c'est de prendre des notes.
Voilà, c'est ça.
Si tu prends des notes, tu vas voir au bout d'un moment comment ton corps fonctionne. Est-ce que c'est finalement assez homogène ? Est-ce que le fonctionnement est toujours à peu près le même ou pas forcément ? Et puis après, l'idée, c'est pas non plus de faire un copier-coller et de se dire si c'est comme ça, il faut que je fasse comme ça. Non, c'est d'abord s'écouter, ensuite adapter.
Ouais.
Et puis après, on voit. On n'a pas forcément besoin tout au long de son entraînement de venir se dire alors il y a cette phase de mon cycle où je vais mettre que des séances de fractionner, puis il y a cette phase de mon cycle où je vais faire que du footing. Non, c'est juste que quand je suis dans cette phase, si je sens que je suis moins bien, ne sois pas surprise si tes chronos ne sont pas aussi bons que tu le pensais.
Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que toi, tu maintiendrais un plan d'entraînement qui est prédéfini, mais en tenant compte dans les sensations de période de ton cycle. En fait.
Ton
plan ne change pas, mais juste si tes sensations sont « anormales », entre guillemets, il y a d'autres explications.
Exactement.
Et il ne faut pas culpabiliser. Quoi.
Bah, moi, je vais te donner un exemple concret, parce que c'est cette semaine, j'avais une séance à faire, et en fait, sur ma séance, je me rends compte que ça passe, mais je n'ai pas de panache, quoi, hein, c'est un peu dur. Et en fait, je me rends compte, en rentrant chez moi, que je suis sur la phase de mon cycle où je suis moins en forme. Et je me suis dit, mais en fait, arrête de te prendre la tête.
Ouais.
C'est pas grave. Mmh. C'est juste que là, actuellement, tu vois bien que tu n'es pas au top de ta forme. Tu as fait avec les jambes du jour. Et en fait, de toute manière, j'ai envie de dire, ça, c'est valable pour les femmes, mais aussi valable pour les hommes. Hein. C'est-à-dire que acceptons aussi d'avoir des phases de notre vie où on y va avec les armes du jour. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'as que 30% à donner, donne 100% de ton 30%. Et c'est déjà énorme.
Exactement. Et nous, on l'avait fait dans un épisode avec Nico Dalmasso. Souviens-toi, Yodu, comment définir ses allures d'entraînement et de course. Et bien là aussi, le ressenti est tellement important de ne pas se fixer à la seconde sur les allures marathon, semi, 10 km, ouais. Quelle que soit la distance qu'on prépare, mais bien tenir compte des sensations du jour pour effectuer ces séances. Moi, je pense souvent, quand on aborde ces questions aux femmes qui nous écoutent et qui ont, comme nous, on peut l'avoir tous, un grand objectif dans l'année, et peut-être cette crainte de se dire « je vais tomber dans une mauvaise partie de mon cycle le jour du marathon que je prépare depuis 6 mois ». Et ça, c'est une angoisse que les femmes doivent ressentir malheureusement lorsqu'elles sont en prépa marathon ou autre distance d'ailleurs.
En fait, déjà avant de se dire effectivement est-ce que ça va arriver sur tel jour de mon cycle, déjà savoir comment son cycle fonctionne, hein, déjà prendre le temps de... Est-ce qu'il y a vraiment des impacts, un impact sur ses chronos ou pas forcément. Et si toutefois, au pire du pire, ça arrive sur une phase de son cycle où on est effectivement moins en forme, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir en fait. On ne va pas dire au marathon de Paris, excusez-moi, vous pouvez changer la date parce que là, on n'est pas trop sur la bonne période. Se dire que accepter que ça puisse se dérouler ainsi. Parfois, on peut avoir aussi des bonnes surprises parce qu'il y a l'adrénaline qui est associée à la compétition et avoir, encore une fois, la bienveillance. En fait, pour moi, c'est hyper important.
Ouais.
C'est
tout l'aspect psychologique de la pratique.
Effectivement, en fait, plus tu vas avoir aussi une certaine bienveillance dans ta façon de pratiquer, plus tu vas aussi te lâcher et te foutre la paix, tout simplement, pour pouvoir courir et faire ce que tu aimes faire. Si tu as tes règles le jour de ton marathon, si tu sais que le jour de tes règles, tu n'es pas au top de ta forme, on va l'accepter. Peut-être qu'on va on va partir sur des bases qui sont moins rapides. Peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise, mais la performance, c'est quand même d'aller au bout d'un marathon en ayant ses règles, c'est quand même pas donné à tout le monde.
Ah, mais ça, c'est évident. Moi, je pense aux athlètes que tu as dû côtoyer pendant 20 ans. Johan, c'est une vraie problématique et ça doit être très, très dur à digérer pour une athlète de se dire le cycle tombe mal alors que j'ai préparé mon championnat pendant des mois, voire des années.
Oui, c'est très compliqué. Après, c'est pareil dans ton cas. Quand tu prépares un marathon et que tu chopes un rhume une semaine avant, tu as la même sensation de se dire « mince, c'est pas de bol, je tombe malade juste avant ». Donc effectivement, comme l'a dit Suzy, il faut pas non plus il faut faire avec, comme elle l'a bien expliqué. Et après, dans le haut niveau, c'est un peu plus compliqué parce que il y a pas mal de filles qui ont eu des problèmes avec leurs règles, qui ont été aménorées pendant un moment avec le sport de haut niveau, avec l'intensité qu'elles y mettent. Des fois, ça peut arriver, donc c'est très compliqué. Mais voilà, effectivement, il faut faire avec et il faut rebondir sur un nouvel objectif plus tard ou de se dire, c'est quelque chose qui peut arriver et dans lequel on n'est pas du tout... dans lequel on peut rien y faire, quoi.
L'autre spécificité, quoique, c'est ensuite, une fois que la grossesse est passée, qu'on a eu son bébé, qu'il est en bonne santé et qu'on peut reprendre la course à pied, le postpartum, c'est la pratique de la course à pied avec bébé. Je dis que ce n'est pas forcément une spécificité parce que ça concerne à la fois les hommes et les femmes, les fameux run poussettes ou tout ça. quels sont les conseils que toi, tu donnes? Toi, tu l'as vécu d'ailleurs, tu étais déjà pratiquante de course à pied quand tu as eu tes enfants. Comment on organise sa pratique en fonction du bébé qui vient d'arriver dans la famille?
Je pense qu'il y a déjà une notion d'organisation familiale, quelle organisation familiale, quel temps je vais avoir pour pouvoir m'entraîner. Alors moi, je vais avoir deux avis là-dessus. Je pense que je trouve que le fait de pratiquer la course à pied avec la poussette, de partir courir avec le bébé, je trouve que c'est hyper intéressant pour l'enfant déjà, parce que c'est aussi une façon de pratiquer le sport, de découvrir la pratique et la passion de son parent. C'est effectivement, comme tu le dis, Yodu, c'est du partage.
Puis ça peut ancrer une image dans sa tête de se dire, c'est inconscient, mais de se dire, je sors et ma mère est en train de courir lorsqu'elle me sort, par exemple.
Oui. Ma mère ou mon père, mon parent est dans le mouvement et je suis dans le mouvement. Et du coup, le fait de sortir, prendre l'air, ça fait toujours du bien. Après, il y a un deuxième avis où je vais venir avoir un avis plutôt mitigé, où je me dis, finalement, quand même, au quotidien, on a quand même des espaces de vie où on est rarement ni maman, ni parent, on va dire, ni parent, ni quand on est dans son travail, ni coach. Donc si on peut avoir aussi cet espace de sa vie, on est juste soi et qu'on veut juste pratiquer, c'est tout aussi bien. C'est-à-dire que là, moi, je l'ai pratiqué, j'ai fait les run poussettes avec mon petit, mais j'étais aussi très contente d'y aller sans. C'est-à-dire que je pouvais juste venir me décharger, me recharger, ce que vous voulez, mais c'était un temps pour moi, Suzanne, d'aller courir.
Ouais, bien sûr. Mais c'est important. Alors ça, c'est spécifique à l'arrivée des nouveau-nés et des enfants, Johan, mais il y a aussi cet aspect, toi, de ta vie qui se développe aujourd'hui. Donc, tu es entrepreneur, tu es également consultant pour différents podcasts. Ce moment à toi, il est important aussi, Yodu, au-delà de la perf, l'entraînement, le fractionné, tout ça, le nombre de footing que tu peux faire en endurance fondamentale, ces petits temps pour toi que tu as un peu plusieurs fois par semaine?
Ah ouais, heureusement. Non, heureusement que j'ai la... Bah, ça fait partie du plaisir. Si je prends du plaisir dans la course à pied, c'est parce que ça m'apporte ces espèces d'endorphines et ces hormones et cette sensation de bien-être et le fait que je m'évade un peu de ne pas être sur l'ordinateur ou sur le téléphone ou en train de passer des appels ou en train de travailler, tu vois. Donc effectivement, ça fait partie du moment où t'as besoin un peu de cette évasion et du côté santé mentale. Et effectivement, ça, c'est quand même la base de la course à pied. Et puis, l'avantage de la course à pied par rapport à tellement de sports, c'est que ça prend peu de temps. Tu vois, tu pars de chez toi, c'est ultra accessible. Tu n'as pas besoin d'aller dans une salle, tu n'as pas besoin de matériel, tu n'as pas besoin de contraintes de temps pour réserver un terrain de paddle ou autre. C'est vraiment compatible avec ton emploi du temps. Là, tout à l'heure, je raccroche et je vais courir, tu vois, et je pars de chez moi. Et 45 minutes après, tu te douches et une heure après, bah, c'est bon, tu repars travailler, quoi.
Ouais. Suzy, moi, je suis dans une phase géniale en ce moment. Parce que ma fille que j'embrasse vient d'avoir 7 ans, donc elle a un grand vélo, 24 pouces.
Ça y est, plus les
petits
trous.
Elle peut me suivre sur les footings,
Elle pace.
Et voir sur certains fractionnés. Un bonheur incroyable. Les routes fermées, tout ça, ça c'est...
Moi, je trouve que c'est d'autant plus fort que, sans t'en rendre compte, t'es en train de lui transmettre beaucoup de valeurs.
Ah, mais c'est sûr.
Même au-delà de la pratique de la course à pied. Parce que toi, c'est ta passion, mais peut-être qu'elle aura une autre passion. Et en fait, tu lui transmets surtout la valeur de la persévérance.
Du sport,
exactement. Et l'effort. Et en fait, l'effort, c'est
de
le quotidien. Hein.
Ouais,
c'est l'effort à l'école, l'effort au travail, l'effort...
Exactement.
Voilà.
Ouais.
Donc moi, je trouve ça génial de pouvoir partager ces moments-là. Et justement, aussi, il y a un élément hyper important. Tu vois, tu parles des fractionnés. Je pense que c'est aussi très important en tant que parent de montrer que parfois on galère.
On souffre.
Ah ouais,
bien
moi, enfin, je trouve ça hyper. Non, mais c'est hyper important parce que les enfants, ils ont cette
tout
innocence.
N'est pas facile dans la vie.
Voilà, ils nous voient arriver, ça paraît bête, mais ils nous voient arriver avec une médaille. On a fait une course, c'est un exploit pour eux. Hein. On est des champions dans leur monde.
Même si moi, elle a toujours pas compris que j'ai des médailles, alors je gagne pas les courses.
Bon. Ça, oui, mais pour elle, tu es son champion.
Ouais,
et ça, c'est magnifique. Ça. Mais c'est important de lui montrer que parfois, bah, pour en arriver là, tu as travaillé et tu galères et par moments, tu n'es pas motivé, etc.
C'est vrai. Non, mais c'est des moments comme ça de vie. Quand on les partage comme ça avec ses enfants, c'est toujours un moment particulier et appréciable comme ça d'avoir la chance de pouvoir partager ce moment qu'on apprécie parfois de passer seul. Mais là, si on peut le partager, c'est tout aussi...
Et puis, il faut pour moi, je pense que dans la vie, en tant que parent, il y a des choses qui ont bien plus de valeur que d'un discours. C'est ce que tu transpires au quotidien.
Exactement,
en termes de valeur. Et ça n'a pas de prix, en fait. Hein, c'est ce qu'on retient tous.
Voilà, pas forcément ce que tu dis, mais ce que tu fais au quotidien et l'exemple que tu donnes à travers les actions et les gestes que tu peux réaliser. Les autres périodes de la vie qui sont abordées, il y a la pré-ménopause et la ménopause. Là, tu t'adresses à des femmes un peu plus âgées. Mmh. Une période qu'on connaît peu avec Johan et sur lesquelles on serait capable de parler ou de donner des conseils, malheureusement. Et quels sont les conseils que tu donnes d'ailleurs pour les femmes préménopausées alors.
Alors en fait, moi, la première chose, c'est de se dire que quand on arrive à une phase de sa vie où on est en préménopause, ménopause, c'est super dur. C'est super dur en tant que femme parce que déjà, tu te dis que tu en as quand même pris toute ta vie plein la gueule, hein, c'est-à-dire les règles, la grossesse, le postpartum, maintenant on arrive pré-ménopause, après ménopause, ça fait beaucoup quand même hein, à un moment donné. Donc du coup, c'est pas forcément une phase de sa vie qui est facilement évoquée et pourtant est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes en phase de préménopause que vous ne pouvez pas continuer à pratiquer la course à pied, même en ménopause. Et moi, je dis même qu'aux femmes qui sont en ménopause, qui pendant des années se sont interdites le temps de sport, eh ben, vous pouvez y aller même à 50 ans. Hein. On peut commencer à courir à 50 ans, c'est OK dès lors que c'est adapté. Donc en préménopause, pour moi, ce qui est hyper important, c'est la même chose qu'au final en ménopause, c'est adapter, encore une fois, l'entraînement. Pourquoi ? Parce que on va peut-être pas s'entraîner comme quand on en avait 20. Hein. C'est-à-dire que le corps a évolué, le corps il a peut-être des besoins qui sont différents. Il faut aussi voir comment le corps réceptionne l'information de l'entraînement pour pouvoir lui donner une réponse adaptée. Et puis après, il y a des éléments qui sont plus liés aux intensités. Ouais. Revoir peut-être certaines intensités, travailler différemment en venant inclure des séances de renforcement musculaire. Si vous aviez l'habitude de faire du renfo, bah peut-être voir s'il ne faut pas faire des séances de prépa physique avec des charges. Travailler la musculation pour accompagner son corps encore dans l'évolution hein, du temps.
Ça, on n'y penserait pas une seconde sans conseil. Hein. Pour une femme préménopausée qui se mettrait à la course à pied, à aucun moment, elle se dirait, je vais à la salle pour porter de la charge.
Quoi. Et pourtant, en fait, le corps évolue, mais on peut l'accompagner. Puis il y a aussi un élément qui est hyper important, c'est la récup. Pour moi, la récupération, c'est fondamental parce qu'on peut avoir des nuits hachées, des mauvaises nuits, on récupère mal. Et donc, il faut vraiment optimiser la récupération de la même façon que l'entraînement. C'est-à-dire que c'est un jour d'entraînement que de récupérer. Et donc, là aussi, il faut accepter que peut-être que pendant des années, si on courait 5 fois par semaine, attention, je fais une généralité. Je ne dis pas qu'il faut faire ça.
Non, bien sûr.
Je dis juste que une personne qui...
J'aime bien, tu mets des warnings.
Oui, voilà. Juste pour se dire qu'une personne qui avait l'habitude de s'entraîner 5 fois par semaine, bah, peut-être qu'elle va s'entraîner 5 fois par semaine et au lieu de courir 5 fois, elle va courir 4 fois et elle va rajouter du vélo. Enfin, tout est possible. C'est juste adaptons, acceptons de récupérer, de travailler différemment et accompagnons le corps dans l'évolution du temps.
Il y a peut-être un aspect psychologique qui est dur à digérer en préménopause, c'est de se dire le corps bascule dans une période de la vie qui est entre guillemets moins sympa, quoi.
Je sais pas si c'est vraiment moins sympa. Finalement, ça a toujours été présenté de manière moins sympa. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Enfin, je veux dire, honnêtement, t'as déjà vu quelqu'un qui te dise putain, je suis en ménopause, c'est génial. Alors que, moi, je connais des femmes qui sont en phase de ménopause, elles le vivent très bien.
Ouais.
C'est juste que je pense qu'on a été dans une société, dans
c'est
une
pareil,
génération où c'était toujours négatif.
Tout à fait.
Je veux dire, il y a toutes ces phrases qu'on peut dire qui sont liées au cycle hormonal, qui sont pas forcément très positives. Mais je pense que c'est plus arrêtons
t'en
de diaboliser.
T'en parles aussi des hormones, hein, je me permets de le dire d'ailleurs.
Mais arrêtons de diaboliser tout ça. C'est OK, on va avoir la ménopause, c'est des phases de nos vies qui sont comme ça, on va devoir les vivre. Mais les vivre, on peut aussi bien les vivre bien que d'accepter que le temps passe.
Et c'est pour ça que ton livre est utile, c'est qu'au-delà de la déculpabilisation, tu casses tout ça. Là. Tu es en train de dire arrêtez de voir tout comme des contraintes, des aspects négatifs, etc. Non, au contraire, c'est des phases de la vie. Vous y passerez toutes, mais voilà, il y a des façons de s'adapter, de les aborder et d'être au top et de conserver un entraînement de qualité malgré ces phases que vous allez traverser dans votre vie. Quoi.
En fait, finalement, quand tu réfléchis, tu te dis qu'en tant que femme, tu vas endurer toute ta vie. Hein. Tu endures le cycle hormonal, la grossesse, le postpartum, la préménopause, la ménopause. Et finalement, quand tu endures, ça rend la femme plus endurante, plus résiliente, plus forte. Donc, moi, je n'ai pas forcément envie qu'on ait un regard négatif. Je dis juste qu'on peut adapter et on peut justement donner un peu plus de sens à tout ce qu'on vit en tant que femme.
Sur l'approche de l'entraînement pur, je le disais au début en introduction, au-delà du fait que ton livre est adapté aux femmes et c'est le running au féminin, c'est le titre d'ailleurs, chez Larousse, hein, pour ceux qui cherchent l'ouvrage. Vous pouvez le trouver également sur Internet, sur différents revendeurs. Toi, ta méthodologie d'entraînement, on le disait, nous, souvent, on a l'habitude de dire votre test VMA, c'est la carte de visite du coureur, vous allez établir vos plans, vos allures, etc. à travers ça. Toi, ce n'est pas le chemin que tu as choisi pour établir justement ton entraînement, tes plans d'entraînement, etc. Toi, tu es plus basé justement sur ce qu'on disait tout à l'heure, le ressenti à l'effort et les graduations d'effort pour mettre en place un plan d'entraînement.
Oui, en fait, je suis partie du principe qu'on est dans une société où tout est chiffré, tout le temps.
Ouais.
Et en fait, je pense aussi que c'est super intéressant. Ça peut être effectivement une phase où on a envie d'aller regarder au niveau de sa VMA, etc. Puis on peut avoir aussi envie de partir sur d'autres approches pour la simple et bonne raison qu'aucun chiffre ne définit ce qu'on ressent. Hein, et si tu ne sais pas ce que tu ressens, ton chiffre, il ne te parlera pas. Donc effectivement, on peut se baser sur la VMA et on peut travailler à partir de là, mais on peut aussi se baser sur ce qu'on ressent. Tu sais, un coureur, généralement, il va être en capacité de te dire sur une séance s'il est sur une allure qui se rapproche plus d'un 10 km ou sur une allure plus marathon. A priori, même si ça nous arrive tous de foirer ça et se dire non, je pensais plutôt que j'étais sur une allure marathon. Ok, mais généralement, on arrive à entendre notre souffle qui n'est plus le même. Et c'est hyper important, c'est la logique qui va aussi avec le mindset que je l'ai associé, c'est-à-dire essayons de revenir un peu à l'essentiel. Qu'est-ce que tu ressens quand tu cours? Ça, ton chiffre, ton chrono, ton résultat après un marathon, c'est génial. Et vraiment, je nous souhaite à tous de faire des super chronos. Mais aucun chrono ne définit ce que ça représente pour toi et ce que tu as ressenti pendant ta course. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu faire une approche différente.
Ouais, je comprends. Le seul risque bémol qu'on pourrait mettre au ressenti, nous, on parle à beaucoup de coureurs et de coureuses confirmées, c'est de se dire, quand on se base sur le ressenti, on a parfois du mal à aller pousser ses limites. Et ça, est-ce que...
Alors moi j'aurais eu tendance, j'ai cru que tu allais me dire l'inverse en fait.
L'inverse,
j'ai cru que tu allais me dire, alors si on se base sur son ressenti, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire c'est tout à fond, c'est-à-dire que tu te dis non mais attends, je suis sur une allure marathon, non gars, là t'es sur une allure 10 km en fait. Donc effectivement, ça te demande une certaine justesse, mais tout ça se prend dans la vie finalement.
Mais c'est vrai.
Tu
vois, de toute façon c'est le socle commun de toute façon, Johan, c'est le meilleur conseil qu'on a à chaque fois, c'est la pratique qui va comme ça développer tout, c'est-à-dire que plus vous allez pratiquer, plus vous allez comprendre ce que vous ressentez, plus vous allez capter les zones dans lesquelles vous êtes et mieux sera structuré votre entraînement en fait.
Ouais, c'est l'expérience, c'est ce qu'on peut vulgairement appeler l'expérience. C'est sûr que au bout d'un moment, tu connais tes zones, tu connais tes exactement comme elle l'a dit, tu es capable de dire quand tu es plus en aisance respiratoire, quand tu ne peux plus tenir une discussion, quand tu es vraiment à fond, quand tu es à 100%. Donc chaque coureur normalement est capable de détecter ces zones-là avec un certain recul de pratique. Tu vois, typiquement ma sœur, elle se met à la course à pied là depuis 2 mois. Elle, j'ai l'impression qu'elle fait tout à fond. Et du coup, il va falloir que je lui pose un cadre.
Son frère,
parce que...
C'est quoi cette histoire?
Je pense qu'elle veut imiter son frère, mais que les gènes du talent ont sauté une génération.
C'est bon, dur ça.
C'est pas sympa. On va la recevoir, tiens, invité, pourquoi pas.
Attends, la pauvre, elle a fait 1h03 son premier 10K.
Bah, c'est vachement bien.
Je pense qu'elle va passer sous l'heure le prochain.
Ah oui, avec la pression que tu vas lui mettre, bien sûr.
Oui, c'est ça, exactement. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, que l'expérience et que les allures sont pas faciles à calibrer quand on démarre, mais par contre, quand on a une certaine expérience, c'est très intéressant, ce fameux RPE, ces sensations. C'est vrai que on doit quand même maintenant, les montres te le demandent à la fin de ta sortie, elles te le demandent automatiquement. Comment tu t'es senti et l'intensité que tu as l'impression d'avoir mis. Et tu vois, au début, je l'avais enlevé, ça. Et maintenant, je le mets. Parce que comme ça me permet de regarder un peu comment je mets. Tu vois, le mois dernier, telle séance, je ne me rappelle plus. Et bien là, je peux aller voir le RPE et comment je m'étais senti. Et je trouve que ça a quand même un bon retour, ça.
Bien sûr. Quelle est ta vision à toi sur l'autre aspect du développement du running? C'est le côté réseaux sociaux, tout montrer, tout exposer, se comparer. En tant que coach, comment tu le vis? Qu'est-ce que tu conseilles à tes athlètes? Au-delà, hommes et femmes confondus.
Ah oui, bah là, hommes et femmes confondus, c'est la même chose. Pour moi, je pars du principe que les réseaux sociaux, c'est une vitrine. On montre ce qu'on a envie de montrer. Donc en fait, je vais avoir beaucoup de recul et j'amène justement les personnes à avoir du recul sur finalement, on voit ce que l'on a envie de voir. Ce qu'on a envie de nous montrer, mais finalement, on sait très peu de ce qui s'y passe, de ce qui s'y joue. Généralement, il y a beaucoup de comparaisons. Et pour moi, la comparaison, dès lors qu'elle vient générer une émotion négative, je pense qu'il faut vraiment la repenser. C'est normal de se challenger, c'est normal de vouloir se comparer, mais faut être vigilant. Il faut accepter en fait que chacun a sa propre vie avec ses propres responsabilités et ça ne sert à rien de se comparer avec ce qui n'est pas comparable.
Si tu avais un message à faire passer à toutes nos auditrices, toutes celles qui nous écoutent semaine après semaine, qui sont intéressées donc par ton livre, toi qui es coach aujourd'hui et donc qui sort ce bouquin Running au féminin, tu voudrais faire passer quoi comme message aux femmes qui nous écoutent?
Je dirais tout simplement que tout est possible, peu importe d'où on vient, peu importe l'âge auquel on va se mettre à pratiquer un sport, que ce soit la course à pied ou une autre pratique sportive, tout est possible.
Et voilà. Et il faut oser, c'est ce que tu dis aussi en conclusion de ton livre.
Il faut
l'important,
oser.
C'est d'oser.
Non,
mais il y a... Quand on arrive à quelque chose, c'est forcément
sur le niveau ou quoi que ce soit.
Exactement.
En course à pied, tu vois, j'étais au marathon de Londres ce week-end. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, j'ai fait 5h30, mais j'étais tellement fier d'elle.
Bah, bien sûr.
Elle me dit, vous savez, c'est loin de vous, c'est loin du record du monde, mais c'est pas grave, on s'en fiche de ça. La course à pied présente cet avantage-là, c'est que tout le monde peut le pratiquer et tout le monde doit le pratiquer à son niveau, et il n'y a pas de jugement à avoir.
Et la fierté est toujours la même fierté pour tout le monde. Le sentiment est toujours le même pour tout le monde, c'est sûr.
Je pense qu'aucun chrono, vraiment, il ne faut jamais oublier au final que quel que soit le chrono qu'on réalise sur une compétition, ça reste notre record. Et c'est le record de notre monde. Et ça, c'est déjà bien suffisant.
Et ça, c'est une très belle conclusion. Merci, Suzy Carian, Suzy One, sur les réseaux sociaux d'être venue nous voir aujourd'hui dans RMC Running. Merci d'avoir fait le déplacement. Bravo pour ton livre. On précise qu'on fera gagner un exemplaire qui sera dédicacé.
Exactement.
Je remercie Suzy. Évidemment, c'est une femme qui gagnera. On le fera gagner sur le compte Instagram d'RMC Running. Mais vraiment, allez-y, parce que c'est hyper ludique. Il y a des plans d'entraînement pour toute distance, 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. Et franchement, vous allez vous régaler. Ne le voyez pas comme un ouvrage théorique, vraiment comme un livre ludique, un plan d'entraînement avec plein de conseils, la nutrition, le renfort, tous les aspects qui concernent les femmes. Franchement, vous allez vous piocher dedans un peu à chaque fois. Ça va vous régaler. Merci Suzy.
Merci à vous.
Merci Yodu d'avoir été
là.
On s'est régalé avec toi une nouvelle fois et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.